franceinter.fr.
Il est 8h33. Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par une radio-télévision de service public débranchée.
Et si France Inter arrêtait l'info? S'il n'y avait plus de matinale avec vous, Patrick, s'il n'y avait plus de chronique de Bernard Guetta ou Thomas Legrand, s'il n'y avait plus de journaux, eh ben c'est exactement ce qui va se passer en Israël pour la télévision et la radio publique, l'équivalent de France 2 et de France Inter, nous explique ce matin Nissim Béhar dans Libération. Le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, a en effet décidé d'avoir la peau de ce service public qu'il trouvait persifleur, incisif et indocile, disent les syndicats. Alors mardi, la télé d'abord, puis la radio ont cessé leurs programmes habituels à la place de la musique et des clips. Fini l'info. Les salariés dénoncent un risque pour la liberté d'expression dans leur pays. Le président de l'État hébreu est même monté au créneau pour mettre en garde le public contre l'influence, dit-il, des commissaires politiques. Mais sa voix ne porte guère, dit le journaliste, face à la volonté du gouvernement et à la majorité de la Knesset qui présente cela comme une réforme de l'audiovisuel public, une réforme radicale et inquiétante.
Retour ce matin dans la presse, et ça va forcément intéresser notre invité, sur la décision de Donald Trump de limoger le numéro 1 du FBI.
Le fameux « You are fired » qui a rendu célèbre Donald Trump dans son émission de télé-réalité a encore été prononcé, relève Jean-Éric Brana, un spécialiste des États-Unis sur le site The Conversation. Sauf qu'un boss de la police fédérale pèse un peu plus lourd que le pion humain d'une émission de télé, poursuit Arnaud de Lagrange dans le Figaro. Trump joue gros, très gros. Si l'enquête sur les rapports avec la Russie lève un ou deux lièvres, il sera en fâcheuse posture, accusé d'une sombre manœuvre politique. Alors, est-ce le coup de sang de trop, s'interroge-t-il? Le spectre de la destitution immanquablement ressurgit. En 73, Nixon avait désespérément tenté de desserrer la mortelle étreinte du Watergate en limogeant le procureur général spécial, chargé de l'enquête. Eh bien, cela ne s'était pas bien terminé, rappelle-t-il. On attend maintenant le coup d'après, explique Jean-Éric Brana. Les passions pourraient en effet se déchaîner avec la nomination du remplaçant de James Comey, car les démocrates, prévient-il, n'accepteront jamais que l'agence qui mènera cette enquête à haut risque soit dirigée par un conservateur ou par quelqu'un de trop proche de Donald Trump. Risque de crise constitutionnelle donc à la Maison-Blanche, moins de 6 mois après l'arrivée du nouveau président.
Mounir Majoubi, le point de départ de cette histoire, ce sont des liens supposés entre les Russes et Donald Trump et son équipe. Votre point de vue là-dessus, vous y croyez?
Moi, j'évite de faire des liens entre cette histoire et celle dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il faut continuer à regarder. Je pense que les choses, ces derniers mois et ces dernières années, ont beaucoup évolué et qu'il faut qu'on ait un regard sur les relations internationales et sur les forces de progrès et les forces conservatrices renouvelées. Et je pense que ça va être ça, l'enjeu des prochaines années, dans l'analyse qu'on peut avoir du monde.
Oui, j'ai pas compris, ça veut dire quoi?
Ce que je veux dire, c'est que je vais pas me prononcer aujourd'hui de savoir si Donald Trump ou pas avait des raisons ou pas de limoger ce directeur du FBI.
Ah d'accord, vous permutez, vous basculez dans une parole officielle. Donc vous faites,
là, vous me demandez de parler d'un chef d'État des plus grands alliés de la France, donc je vais me permettre de pas me prononcer là-dessus.
Très bien. En France, Hélène Jouan, ce sont les départs parachutistes et investitures législatives qui font la une.
Ça tangue pour Marine Le Pen, titre aujourd'hui en France Le Parisien, après l'annonce par Marion Maréchal Le Pen de son retrait de la vie politique. Et qui, pour faire tanguer un peu plus le navire FN, et bien dans la famille Le Pen, j'ai demandé le patriarche Jean-Marie Le Pen, qui ce matin ne parle plus de désertion pour sa petite fille, mais qui balance un gros coup de rame sur la tête de sa propre fille. À son âge, avec son charisme et son intelligence, Marion incarnait l'avenir. Ce départ pourrait peser très lourd pour les législatives, prévient-il. Marine pourrait le payer cher. Jean-Marie Le Pen, qui récuse l'idée de laisser le FN au frère Philippot, dit-il, ce serait en faire un parti croupion. Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas de mots assez durs pour redire le ratage qu'a constitué le débat de l'entre-deux-tours et qui dénonce aussi le prix de l'accord passé avec Nicolas Dupont-Aignan. Faire le sacrifice de 50 circonscriptions, c'est cher payé, accuse style. Sur le site marianne.fr, Jean-Claude Jaillet raconte que c'est bien le débat, un désastre. Comment peut-on être aussi con, aurait lâché Marion Maréchal Le Pen à l'adresse de ceux qui l'ont préparé ce débat, les Philippot encore, qui a précipité sa décision de prendre momentanément du champ. Et puis dans Libération, enfin, un frontiste confie que la réunion mardi au QG de l'ex-candidate a été houleuse. Ils se sont engueulés comme du poisson pourri, dit-il. Philippot en a pris pour son grade. sa tangue au FN.
Et on a la confirmation que Marion Maréchal-Le Pen n'a assisté qu'à la première heure du débat. Elle est partie avant la fin parce qu'elle a pensé que c'était plié.
Comment peut-on être aussi con ?
Un parachutage maintenant qui fait grincer.
Mélenchon à la hussarde à Marseille, titre ce matin La Provence, qui parle d'onde de choc dans le centre-ville. Après que l'ex-candidat à la présidentielle a annoncé avoir porté son choix pour les législatives sur Marseille, avec un homme qui est tout particulièrement en colère, le candidat socialiste Patrick Mennucci de la circonscription ciblée, il se dit prêt au débat avec le nouvel arrivant. J'aborderai ses soutiens à Bachar el-Assad et Poutine, promet-il. Et son problème de ne pas savoir où s'installer, c'est quand même la cinquième fois qu'il change de territoire. Je suis prêt à l'affrontement, prévient-il, guerrier. Premier effet en tout cas de cette annonce, raconte ce matin le quotidien provençal. Mennucci a réussi hier à réunir pour la photo tous ses anciens rivaux des municipales, de Samia Ghali à Marie-Arlette Carlotti. Le comité d'accueil est donc prêt à Marseille. Pour l'humanité, c'est moins le point d'arrivée de Jean-Luc Mélenchon qui pose problème que le désaccord persistant entre la France insoumise et les communistes sur l'ensemble des législatives. Attention, prévient Patrick Appelmüller dans son édito, les comptes sont têtus. Si communistes et insoumis vont désunis à la confrontation électorale, ils figureront rarement au second tour et n'auront donc qu'une poignée de sièges à l'Assemblée.
Et puis le Cavals, refusé jusqu'à présent par En Marche, qui continue de provoquer des remous.
Tolérance et bienveillance, nous disait Macron, s'exclame ce matin dans le Figaro le président UDI de la région Normandie. « Tu parles, Charles », lance-t-il en substance au nouveau président. Quand on ferme la porte au nez de la sorte à un ancien Premier ministre, cela donne à réfléchir, accuse donc Hervé Morin, étonnant défenseur de Manuel Valls. Ça me rappelle ce que Bayrou a vécu avec Hollande. Macron en fait ne fait que reproduire les mêmes schémas anciens, le verrouillage de la vie politique par un parti unique, parti qu'il a rebaptisé « BOA ». Alors un boa qui fait plus envie que peur. Marcelo Weissfried, toujours dans le Figaro, nous donne quelques échos du bal des courtisans qui a commencé autour d'Emmanuel Macron, député, ministre, conseiller. Lorsqu'ils ont réussi à se procurer son numéro de portable, écrit-il, certains, les noms ne sont pas donnés, lui glissent une demande, d'autres un CV. Le plus souvent, il ne répond pas, paraît-il, ou alors pour accuser réception d'un simple « yep, yep ». C'est vrai que c'est tolérant, c'est bienveillant et ça n'engage à rien.
On termine par une icône littéraire.
L'icône Georges Perec qui entre dans la Pléiade aujourd'hui. Hommage de l'écrivaine Marie Darrieussecq dans Le Monde des livres à celui qu'elle admire comme un bricoleur de génie. L'auteur de La Disparition, ce livre écrit sans eux, qui disait en fait qu'il écrivait sans eux, E-U-X. Son père mort à la guerre, sa mère assassinée à Auschwitz. Un aimable jeu avec les mots pour donner forme à l'absence et dire l'indicible. Il faut donc lire cet article de Marie Darrieussecq dans Le Monde des livres et relire évidemment Perec dans la Pléiade ou en poche.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.